Ézéchiel. Ça vous paraît peut-être étonnant, mais chapitre 47, du verset 1 à 12. Je ne vais pas le lire en entier, mais vous le connaissez, ce texte. Et pour moi, il rassemblait bien à la fois notre appel, ce que nous vivions et ce que Dieu nous appelle à vivre. Il me ramena vers l'entrée de la maison et voici que l'eau sortait sur le seuil de la maison, à l'est, car la façade de la maison était à l'est. L'eau descendait sur le côté droit de la maison au sud. Et à peu près, il est écrit que c'est un torrent. Et que l'eau va continuer à couler, et que ça va être un torrent. Et vous connaissez l'histoire. Et ce torrent, au début, c'est un petit peu d'eau. Et puis après, c'est aux genoux. Et puis jusqu'aux cuisses. Et après, on n'arrive même plus à nager. On a souvent prêché pour parler du Saint-Esprit, à juste titre. Et comment Dieu allait nous emporter dans son flot. Mais on n'a peut-être pas regardé suffisamment la fin de ce texte. Et je voulais qu'on y revienne. Alors si tu peux avancer, Alexis. Il est dit, au verset 8 et 9, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Et lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Et tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. » Amen. Amen. Et là aussi, souvent quand vous avez entendu cette parole, et souvent quand on a prêché sur cette parole, on a parlé de votre cœur, et c'était vrai, que Dieu allait toucher des lieux morts de votre vie, toucher des lieux qui avaient été blessés et restaurés, et que le Seigneur voulait complètement vous transformer. On avait raison de le dire, c'était vrai. Mais on oubliait peut-être 80% du sens de ce texte. Parce que pour Ézéchiel, pour les hommes de la Bible, la mer, le symbole de la mer, ce n'était pas seulement une personne, mais les nations, le monde entier, le monde tout entier. Et lorsqu'il est écrit cela, ce qui est écrit, c'est que le torrent d'amour de l'Esprit Saint, venant de la maison de l'Éternel, viendra toucher le monde entier. Il viendra transformer le monde entier. Il viendra rendre saint et guérir le monde. Alors c'est écrit, après, je ne vais pas tout vous lire, on parle d'En-Gedi. Et si vous avez été à En-Gedi, vous avez vu la mer morte. Et on sait ce que c'est qu'une mer morte. Mais le Seigneur dit, je vais transformer la mer morte en une mer vivante, remplie de poissons. Et je vais transformer le pays. Je vais remettre de la verdure dans mon pays. Je vais le transformer, je vais le guérir, je vais le restaurer. Et c'est ce qui est écrit aussi dans Apocalypse, au chapitre 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre serviront à la guérison des nations. Les feuilles de l'arbre serviront à la guérison des nations. La mer dans le livre d'Apocalypse est régulièrement symbole des nations, de la lutte, y compris entre les nations et l'autorité de Dieu. Le fleuve de Dieu représente la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'œuvre de Dieu dont nous sommes à son bénéfice. Et on a trop souvent enfermé ce fleuve à notre soin personnel. Et nous avons vraiment là peut-être à nous remettre en question. Qui d'autre que moi ne pourra vous dire combien est important la restauration personnelle? Mais arrêter notre vie et la vie de Dieu à une restauration personnelle de notre famille est totalement injuste et pas compatible. En tout cas, n'est pas ce que la volonté du Seigneur. Je regardais le jour d'une mission et un scientifique qui disait et qui s'en félicitait. 670 millions d'évangélistes dans le monde. C'est énorme aujourd'hui. Cette croissance est colossale. Qu'est-ce que ça change dans le monde aujourd'hui? Peut-être que vos paroles sont un peu dures. Il y a des pays où on parle de 30% d'évangélistes. Qu'est-ce que ça change dans ce pays? Qu'est-ce que ça change dans le pays? Qu'est-ce que ça guérit dans le pays par rapport à la corruption, par rapport au péché, par rapport à tous les dysfonctionnements d'une société? Je crois que vraiment que nous avons besoin et que nous avons été un péché quand même. Et c'est un vrai, je dis les mots comme je le pense, l'individualisme est un péché qui a profondément imprégné nos églises. Je suis désolé de vous le dire, mais on a trop pensé au salut à titre personnel, c'est vrai, et non pas, et pas simplement à notre responsabilité collective. Et nous sommes vraiment appelés à être remis en question sur ce sujet. Et qu'un évangile qui simplement qui s'arrêterait à la porte de ma maison, et, enfin, qui ne sortirait pas de la porte de ma maison ou de la porte de mon église, est un évangile qui est atrophié, amputé, et qui ne correspond pas à ce qu'était la volonté de Dieu. Pour essayer de vous faire comprendre, et reprenons les mots justement évangile, Christ, Église, et quel était le mode de pensée des chrétiens et des premiers chrétiens. Aujourd'hui, on a l'impression que tous ces mots ont été affadis, perdus de sens, la bonne nouvelle, Jésus est Seigneur. Mais quand les apôtres prononçaient ces mots-là, ils avaient une puissance, ils avaient une dangerosité, ils étaient violents. Pourquoi ? Le mot évangile, par exemple, bonne nouvelle, c'était le terme officiel utilisé pour les communications impériales. Waouh ! C'était les informations transmises par l'empereur, Evangelion, pour annoncer les actes et les bonnes nouvelles de l'empereur à son peuple. Vous vous rendez compte de ce qu'on faisait les chrétiens en disant « Non, non, la bonne nouvelle, ce n'est pas ce que vous dit l'empereur. » Comme on dit aujourd'hui, les bonnes nouvelles, ce n'est pas ce que vous disent les communiqués de presse. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Ils n'estimaient pas... Deuxième exemple. Deuxième exemple, « curios »,« seigneur ». On aurait pu utiliser d'autres mots en grec. Mais ils ont utilisé le mot le plus politique, le plus... proche du domaine politique. Ça voulait dire despote, empereur, seigneur. Et c'est, quand on disait Jésus est seigneur, c'était un acte de guerre immédiat vis-à-vis de l'Empire romain. Parce qu'il n'y avait qu'un seul seigneur dans cet empire, c'était l'empereur. Et l'empereur ne supportait pas un autre seigneur. Il supportait 1000 dieux, mais pas un autre seigneur. Et nous on disait, et Norbert nous l'a dit la semaine dernière, que toute autorité avait été donnée à Jésus. Et non pas à l'empereur. C'était une opposition frontale, politique, avec le monde de l'époque. En utilisant les termes Evangelion, en utilisant les termes Christos, curios, ils utilisaient des termes qui les mettaient en opposition. Et le troisième terme, des termes qui sont centraux, église, ecclésia, gouvernement d'une cité en grec. Qu'est-ce que vous voulez dire, nos évangélistes, que voulait dire Paul, que voulaient dire les uns et les autres en écrivant cela? Je crois simplement qu'ils disaient qu'ils reprenaient et qu'ils avaient compris la prophétie de Jérémie et d'Ézéchiel. Alors ça, c'est Ézéchiel, Jérémie, on la verra après. La prophétie d'Ézéchiel, du fleuve de Dieu, sortant de la maison de Dieu, coulera et emportera toute chose, et sera un torrent de telle puissance que ça transformera et guérira la mer, les nations, mon pays, ma ville. Amen. Est-ce que nous voulons, quel type d'évangile voulons-nous annoncer? Et je crois vraiment que le Seigneur nous veut que nous soyons une armée qui prions et qui soyons pour bénir et pour aimer notre ville. Je voudrais reprendre un autre texte maintenant. C'est le texte de Jérémie. Alors si tu peux avancer, Alexis. Un texte qu'on connaît. Quel est le contexte de ce texte de Jérémie? Nous sommes à la fin du livre de Jérémie. Les Israéliens sont à Babylone. Ils ont été déportés. Jérémie les avait prévenus. Ils n'ont pas écouté. Maintenant, ils sont là où Dieu leur avait voulu qu'ils soient. Ils étaient captifs à Babylone, emprisonnés à Babylone, dans une ville qui pour eux représentait le mal absolu. Une ville qui était le symbole absolu du péché, du paganisme, de la divination. C'était leurs ennemis, là aussi. Et qu'est-ce que dit Jérémie ? Recherchez le bien de leur ville, de la ville. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené. Priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. Je vais y revenir. Qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs. Car, et ensuite, alors je ne sais pas si je n'ai pas tout mis parce que c'était long, il dit, mariez-vous, bâtissez des maisons, prospérez. Et si tu peux avancer, il y a un dernier verset, un verset qu'on connaît bien, et comme dirait Norbert, qu'on des fois on utilise sans le remettre dans son contexte. Priez pour la ville où vous êtes emprisonnés. Bénissez cette ville, prospérez dans cette ville, priez, bénissez les autres, aimez les gens autour de vous, ne les prenez pas pour des ennemis, mais bénissez-les, aimez-les, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, et ce n'est pas des projets de malheur, mais de bonheur. On connaît bien la fin du verset, on le connaît, on l'utilise souvent, est-ce qu'on le remet dans son contexte, ou est-ce qu'on le programme simplement pour moi, à titre personnel, en disant, oui, et c'est vrai, Mélodie, Dieu a des projets de bonheur pour toi, et pour Stéphane, et pour chacun d'entre nous. Mais faisons attention à la parole de Dieu. C'est une telle beauté, une telle joie que nous ayons cette parole. Il y a un contexte dans cet enseignement. Bénissez la ville, priez pour la ville, aimez cette ville, construisez-la, engagez-vous, soyez solidaires. Ne la jugez pas. Ne soyez pas comme ces prophètes qui vous disent « Cette ville est maudite, fuyez-la, elle va être détruite. » C'est vrai que Babylone sera détruite. Ces prophètes avaient un petit problème avec le temps. Mais est-ce que nous sommes là pour juger ou pour aimer ? Pendant on a fait un atelier sur l'évangélisation. Et Gérard s'est levé à un moment, il a dit « Mais pour évangéliser, il faut aimer les gens. Et aimer les gens autour de nous. » Il avait raison. Si vous êtes là pour lui dire, je veux te sauver parce que tu es perdu, en disant avec une parole de jugement et négative, c'est pas ça que les gens veulent entendre. C'est pas ça que les gens veulent entendre de votre part, de notre part. Ils ne veulent pas non plus entendre en disant, ouais, j'ai une personne sauvée, j'ai rempli encore mon carnet. J'ai encore vendu. C'est d'aimer, c'est de prier, c'est de bénir, c'est de soutenir. Et nous avons beaucoup, et aujourd'hui, et je suis effrayé par tout ce que je lis, enfin je ne lis pas beaucoup, mais chaque fois que je m'arrive de regarder sur Internet, il y a tellement de prophètes de malheur sur ce site en ce moment, sur ces sites, qui sont en train de condamner tout, sans grâce. Nous ne sommes pas là pour juger les gens, ni nos hommes politiques, ni les responsables internationaux, ni leur donner des bons points ou des mauvais points. Nous sommes là pour aimer les gens et pour prier pour eux. Et je vous demande vraiment je vais vraiment vous mettre en garde contre tous ces textes qu'on voit et qui sont des fois catastrophiques et qui nous empêchent de rentrer dans l'appel que Dieu nous a fait. Et toutes ces déclarations, et je pense entre autres, y compris à ces ouragans et tout ce qu'on a dit autour de ces ouragans. Et franchement, j'ai un peu honte, pour ne pas dire plus de ce que je lis. Vous savez, quelle est la responsabilité que nous avons par rapport à un ouragan comme celui-là ? J'en ai vu trois, moi. Toi, j'en ai trois que j'ai faites à titre personnel, et puis que je vous propose aussi que nous participions. Le premier, ça vous paraît peut-être stupide, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont prié, c'est que l'ouragan se déplace. Ça, il n'y a que nous qui pouvons prier dans ce sens-là. Et ça vous paraît ridicule, mais priez pour que l'ouragan José passe à 150 km et pas au milieu des îles. Que Haïti, et on sait quelle catastrophe si l'ouragan Irma aurait passé au centre d'Haïti, ça aurait été épouvantable qu'on connaisse la situation d'Haïti. Ça aurait été des centaines de milliers de morts qu'on aurait connues. Et par la grâce de Dieu, Haïti a été préservé. Et je suis convaincu qu'il y a des milliers de personnes sur ces îles pauvres qui ont prié, qui ont crié à Dieu. Et Haïti a été préservé. Il y a eu des dégâts, mais rien par rapport à ce que ça aurait pu être. Donc priez. Priez le Seigneur. Après, priez pour les personnes. Ensuite, et puis leur venir en secours. Mais je ne crois pas que ni prophétie, ni jugement, ni acte de condamnation aidera qui que ce soit dans ces îles. Par contre, la prière et le soutien matériel, et je vous propose que la semaine prochaine, il y ait une offrande spécifique qui soit faite. Et je vais me renseigner dans la semaine pour que cet argent aille directement à une église locale sur une de ces îles, que nous puissions participer, ça sera un petit obol, mais que nous puissions être solidaires de tous ces gens qui ont tout perdu en une nuit. Mais voilà une responsabilité que nous pouvons très simplement avoir en tant que chrétiens et que je vous demande d'avoir d'une manière régulière et systématique. Construisez des maisons, bâtissez des maisons, prenons soin de notre ville, plantez des jardins, mangez-en les fruits, mariez-vous, engendrez des enfants, recherchez la paix de la ville. Je disais à Norbert, il y a une des premières phrases qui a été dite quand le Christ est venu sur cette terre. Paix sur la terre. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. On a un peu des fois pris ça pour nous tout seuls. Ce n'est pas écrit paix sur la paix pour sur Israël. Ce n'est pas écrit paix à ceux qui m'aimeront. Ce n'est pas écrit paix aux hommes de bonne volonté. Paix sur la terre. Nous avons vraiment à nous renouveler et à être renouvelés profondément en tant que croyants. Et peut-être chaque fois que nous sommes enfermés, toujours le week-end dernier, c'est vrai que c'était riche, Eric disait, mais c'est une église, c'est un club. Si nous ne sommes pas engagés dans la ville, si nous ne sommes pas là pour transformer, à quoi nous servons-nous ? Pouvons 200, 300, 1000. Quel est le sel que nous porterons dans la ville de Nîmes? Quelle transformation apporterons-nous dans la ville? Nous avons, ce matin, j'aimerais que la libérer au milieu de vous un parfum, une utopie, pas un rêve inaccessible, mais simplement le rêve de Dieu, le désir de Dieu, l'appel de Dieu sur nos vies, sur notre assemblée. Un appel pour ma vie, pour ma famille, pour mon travail, pour mon quartier, pour ma ville et mon village, pour ma région, pour ma nation, pour les nations. Dieu, pour tout cela, a des projets de bonheur, de paix et non de malheur. Et je vous en supplie, arrêtez d'écouter les prophètes de malheur. Arrêtez de les écouter. Et bénissez les villes. Je voulais prendre un exemple. Quelqu'un que j'ai rencontré, enfin que je connais depuis quelques temps, puis on a mangé ensemble. Ce n'est pas pour le mettre en valeur, mais ça vous donne un exemple de ce qui est possible à faire. Et ce n'est pas ça qu'on fera nous, mais j'ai trouvé son témoignage magnifique. Il s'appelle Martin Choutet. Il habite Paris. Il me racontait un peu son histoire, plutôt d'une famille, il me dit de Versailles, famille aisée, catholique, aisée, bourgeoisie, catholique, aisée de Versailles. Puis il devait reprendre l'entreprise et à 20 ans, il a eu le sentiment qu'il voulait faire autre chose et il a voulu s'engager pour les plus pauvres et les SDF. Donc il s'est engagé comme travailleur social après ses études. Il a travaillé, puis il s'est rendu compte que c'était pas suffisant et que il y avait toute la mécanique du travail social avec les systèmes, les aides, etc. Il travaille encore dans ça, mais... Et donc, il a dit, mais je voulais autre chose. Et donc, il a créé une communauté qui s'appelle l'Amitié. Et l'objectif, c'était à la fois d'une simplicité absolue, mais c'était qu'il y ait 4-5 SDF qui vivent avec 4-5 personnes dans le même appartement. Tout simplement. Donc il y a des gens qui travaillent, mais ils vivent tous ensemble. C'est pas si simple que ça. Facile à dire. Moi, ça fait 20 ans que ça existe, donc c'est vrai que là, il faut du temps, parce que c'est la communauté de l'amitié. Il avait pris l'exemple de Jean Vanier, qui avait fait ça sur les handicapés, ou la sœur Emmanuelle, qu'il faisait avec les gens qui vivaient, qui s'était mis à vivre comme les gens en Égypte. Ben là, elle a dit, mais moi, je vais faire ça pareil, mais à Paris, y compris dans des beaux quartiers. Donc j'ai été le voir, rue Vaugirard, beau quartier parisien, et on me dit, bah d'ailleurs, il y a Depardieu qui a son hôtel particulier là, etc. Puis au milieu de tout ça, bah, il y a 2-3 appartements avec des gens qui sont moins riches, disons. Quel témoignage, pas de jugement, hein, mais simplement le soin d'être avec les plus pauvres. Et quel acte prophétique. Si on doit être prophète, c'est dans ce sens-là, pas de prophète de malheur, mais des prophètes de bénédiction. Et alors, c'est à Paris, etc. Mais qu'est-ce que c'est autre que la maison des parents depuis plus de 10 ans, si c'est un acte prophétique où nous nous accueillons régulièrement avec tout simplement en offrant sur nos deniers, sur notre argent, sur vos dons, un lieu d'accueil pour des personnes qui vont être à un moment ou à un autre, dans une autre circonstance. La perte d'un être cher, une maladie, un accident grave. Et je vous encourage vraiment, et je renouvelle, mais je le dis, mais je voudrais vraiment que cette année, j'aimerais vraiment que le bénévolat se développe dans cette maison. Elle fonctionne, mais je trouve que ça serait dommage que vous vous priviez, tout simplement, de la joie de servir et de y participer, en y allant une demi-journée, en allant voir Martine, en l'encourageant aussi, régulièrement. Parce que c'est pas facile pour elle d'être tous les jours confrontée à des situations épouvantables, difficiles, douloureuses. Il faut du moral. Et je vous demande vraiment de l'encourager, d'encourager le président, mais évidemment, Fred. Mais si Martine, Sylvie, et d'encourager tous ceux qui sont là. C'est un acte prophétique. Bénissez pour le bien de notre pays. Puis le Seigneur a décidé de, dans son immense grâce, et ça va être l'enjeu de cette année, de nous donner un nouveau lieu pour bénir la ville. Je ne sais plus qui disait aussi, mais je crois que Benjamin tout à l'heure était inspiré, il disait, mais je pense que le Seigneur vraiment nous appelle à aller dans la rue. Enfin, en tout cas, moi j'ai entendu. Je ne sais pas s'il a dit, mais c'est ce que j'ai entendu. Vous savez, des fois. Il n'a peut-être pas dit comme ça, mais c'est ce que j'ai compris. Dieu nous appelle à être dehors, dans la rue, dans la ville. Et Dieu nous a donné ce bâtiment, la rue Séguier. On va lancer officiellement et on fera une inauguration officielle à l'automne. Pourquoi le Seigneur nous a donné ça? Pour qu'on fasse un petit bocal fermé, qu'on ferme à double cour? Propose qu'en cela, qu'on mette un mur, qu'on change cette vitrine, qu'on mette du parpaing, hein, pour être sûr que personne ne nous voit. Mais c'est un lieu ouvert. Et c'est un lieu béni. Vous avez entendu ce qu'a dit Loïc? Le groupe qui a été mesuré par deux. Des gens qui se promènent dans la rue et qui voient de la lumière et qui rentrent. Waouh! Donc on va. Et je vous appelle là aussi. Et c'est ce qu'on a décidé, un espace ouvert. Et si vous avez des rêves, vous voulez bénir la ville par des moyens ou par d'autres, venez nous voir. Mais nous allons ouvrir différentes activités à partir des groupes de maisons, mais aussi des temps de louange, des petits concerts, un ciné-club, etc. Et on veut en faire d'autres choses. Mais tout simplement pour bénir la ville. Je sais que je vous parle et que vous avez à cœur d'être dans cette vision. Mais je voulais vraiment que vous soyez renouvelés ce matin. Oui, Dieu nous a demandé de transformer et de restaurer et d'avoir une responsabilité, une autorité, une ecclésia, par la prière déjà, pour bénir ma ville. j'ai une responsabilité. Et il y a des groupes de prière et ils se développent. Et dans le Mazet, je n'ai pas cité tous, parce que y compris, je risque d'en oublier et donc d'en blesser certains. Mais je sais que vous êtes plusieurs ici à prier. Priez pour la ville. Priez pour notre travail, pour nos entreprises. Priez pour que le monde soit guéri et restauré. Dieu fait entrer un fleuve dans cette région. C'était la parole qui a été reçue il y a longtemps pour cette assemblée. Une montagne d'adoration, mais qui transforme la ville de Nîmes. Nous sommes frais, entre guillemets, une église qui est reconnue pour sa louange, son adoration. Super, merci Seigneur. Qui va être contre? Mais chaque fois, nous, ce que nous souhaitons, c'est de toucher. Ce n'est pas le but final. Le but, c'est d'obéir à Dieu. Et Dieu nous a donné un commandement, une mission. Allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Et la semaine prochaine, les autres prédicateurs vont parler du baptême, de l'enseignement. Mais soyons conscients de l'objectif que Dieu nous a donné. Nous savons bien que la ville ne sera pas totalement transformée, que ce sera au retour du Christ que tout sera accompli. Comme dit la parole dans Romains, que la terre sera restaurée, elle qui vit les douleurs de l'enfantement. Mais ce que je sais, c'est que toutes les paroles qui sont données déjà aujourd'hui sont une bénédiction, sont à la fois une bénédiction pour transformer, pour sauver et pour aimer. Oui, pour sauver les gens. Mais je vois Martine qui me regarde, mais à la fois, et qui fait Alpha, et que dans Alpha, on en sait et on annonce l'évangile. Mais lorsque nous sommes dans la maison des parents, nous ne sommes pas simplement là pour. Si quelqu'un veut annoncer l'évangile, nous le ferons, bien évidemment. Nous savons que chaque fois que nous bénissons, que nous aimons, que nous sommes au service des uns et des autres, et il y a d'autres associations, et je pense à Marie qui est aussi. Qu'elle soit bénie et soutenue par son assemblée dans ce qu'elle va faire maintenant. Mais que chaque fois que nous puissions vraiment avoir ce rôle et comprendre que nous avons une responsabilité et que les paroles que nous disons sont des paroles de vie qui restaurent et qui guérissent et qui transforment, même si les personnes ne sont pas chrétiennes. Nous avons tous vocation à servir là où nous sommes. Ça commence tout simplement le matin, dans ma ville, dans mon travail, dans mon lieu, dans mon école, dans mes associations des parents d'élèves, dans les associations de quartier, d'être un lieu où je suis, je m'engage et je soutiens et je bénis la ville, mon village, et je prie. Et les groupes de maisons, et j'appelle les groupes de maisons, en particulier dans les villages, à être des groupes non seulement qui. Tout ce qu'a dit Loïc était parfait, super. Mais je crois qu'il a dit aussi, mais priez aussi pour le village en lui-même. Priez, bénir le village, bénir le maire. Bénir les problèmes de route, l'école de quartier, les problèmes qu'il peut y avoir dans le quartier. Si vous ne faites pas, qui va le faire? Si nous ne prions pas, qui va prier pour nos villages et nos maires? Qui va prier pour tout ce qui se passe? Nous avons une responsabilité. Chaque groupe de maison, c'est une ecclésia dans un village. Et c'est un lieu de gouvernement spirituel du village. Prenez cette responsabilité-là dans les groupes de maison. Et soyez cela. Nous sommes devant le Seigneur et nous recevons la parole, cette parole. Mais nous voulons, et je veux terminer avec cela très simplement. Et j'espère que je n'ai blessé personne, mais je voulais vraiment vous mettre en garde. Chaque fois que nous avons un jugement négatif sur ce monde. Mais comme Jérémie l'a fait, nous qui sommes dans cette ville de Nîmes, et ce n'est pas Babylone, et nous aimons cette ville de Nîmes, que nous puissions l'aimer. Et Seigneur Jésus, je voudrais vraiment maintenant te demander de nous renouveler dans notre intelligence, de nous renouveler dans notre pensée, dans notre cœur. Et que tu me dises, Seigneur, mais comment tu veux que je serve ma ville? Comment tu veux que j'apprenne à aimer, à donner de l'amour autour de moi, dans mon travail? Merci Seigneur de me parler ce matin. Si tu veux que je m'engage à la maison des parents pour le service, si tu veux que je m'engage rue Séguier pour le service, pour l'évangélisation, pour Alpha, pour le travail social, Mais Seigneur Jésus, je sais que nous sommes devant un parfum que tu as mis parmi nous, un parfum d'amour. L'amour du Christ. Et nous ne voulons vraiment pas garder ce parfum dans un vase ce matin. Mais nous voulons le briser pour le déverser dans la ville de Nîmes. Nous voulons déverser le parfum du Christ dans la ville de Nîmes. Pas le garder pour nous. On dit, oh là, on garde notre parfum. Apprends-nous à déverser ce parfum sur la ville de Nîmes. Apprends-nous à être tes témoins partout où nous sommes. Amen. Soyez bénis, mes amis. C'est super. On va continuer, Frédéric.